au sommaire en ce jeudi 8 décembre 2016. Actualité internationale dans un premier temps, où nous aborderons les nouvelles révélations d'Edward Snowden à propos des pratiques d'écoute massive de la NSA, la guerre en Syrie et la reprise sanglante d'Alep par les forces gouvernementales, et enfin la nomination d'un climato-sceptique par Donald Trump à la tête de l'Agence américaine pour l'environnement. Retour sur les titres nationaux dans un second temps avec le vote du Sénat pour la pénalisation des sites anti-avortement accusés de désinformation et de délit d'entrave à l'IVG. Course à la présidentielle, on se bouscule au portillon de la primaire de gauche avec des candidats de plus en plus nombreux, ce à quoi s'ajoute la rumeur d'une candidature surprise de Vincent Peillon. Environnement enfin, avec la France plongée dans un brouillard de particules fines, avec le pire pic de pollution depuis ces 10 dernières années.
Alors commençons avec des révélations sulfureuses, Maëlys.
Mais oui Mathias, alors à l'international aujourd'hui, de nouvelles révélations issues des archives d'Edward Snowden et diffusées hier par un ensemble de médias internationaux, dont le journal Le Monde en France, concernant les activités officieuses de la NSA, l'agence de sécurité américaine et l'agence de renseignement britannique, la GCHQ. Alors qu'Edward Snowden avait déjà dénoncé la construction méthodique d'un système de surveillance à partir de la collecte massive de données de communication, les accusations se font plus précises plus de 3 ans après l'affaire. On apprend ce mercredi que la France a été ciblée par un programme d'interception des communications mobiles à bord des avions commerciaux par la NSA et la GCHQ, notamment sur les vols de la compagnie Air France, compagnie la plus susceptible, d'après eux, d'être visée par un nouveau 11 septembre. Seconde révélation, bien qu'officiellement les services secrets américains, britanniques et israéliens soient des 3 alliés de longue date, les Britanniques auraient espionné la diplomatie israélienne, mais aussi bien à Jérusalem qu'à l'étranger. Ils visaient aussi des sociétés privées du secteur de la défense, des organismes d'État ou encore des centres universitaires connus pour leur très haut niveau scientifique, ratissant beaucoup plus large que les écoutes de simples dirigeants politiques qui avaient déjà été mises au jour. De même, les agences américaines et britanniques auraient également intensément écouté leurs très proches alliés du renseignement jordanien, nation alliée précieuse à l'heure de la lutte contre Daesh. Des révélations qui risquent de mettre de l'eau dans le gaz entre ces puissances alliées en termes de renseignement, ou pas si l'on s'en fie aux réactions pour l'instant prudentes des différentes parties impliquées, et à ce vieil adage de l'espionnage, ne se fier à personne.
Et au Moyen-Orient, où en est-on en Syrie ?
Moyen-Orient et guerre de Syrie maintenant, Mathias, où Alep est toujours à feu et à sang alors que l'armée syrienne dirigée par Bachar el-Assad a annoncé hier avoir repris la ville, appuyée entre autres par l'aviation russe, après des jours de bombardements intensifs qui ont tué des centaines de civils. Les groupes armés rebelles en lutte contre le régime et présents dans la ville depuis 2012 ont réclamé une trêve immédiate et en ont appelé aux grandes puissances et au droit international humanitaire. Au même moment, la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada et l'Italie et le Royaume-Uni ont demandé hier un cessez-le-feu immédiat à Alep, enjoignant l'Iran et la Russie à faire pression sur le régime syrien. Néanmoins, les espoirs d'apaisement sont maigres, puisque lundi, la Russie et la Chine ont mis leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant une trêve à Alep et l'arrêt des combats en Syrie. Et qu'aujourd'hui, dans une interview publiée dans le journal syrien Al-Watan, Bachar el-Assad exclut tout cessez-le-feu à Alep afin de parachever sa victoire, qui représente, je cite, une étape énorme vers la fin du conflit. L'arrêt des combats n'est donc pas d'actualité et le sang n'a pas fini de couler en Syrie.
Un sombre horizon. Pas de nouvelles plus réjouissantes aux États-Unis ?
Direction les États-Unis maintenant, où le climato-sceptique Scott Pruitt a été nommé par Donald Trump à la tête de l'Agence américaine pour l'environnement. Donc la rencontre lundi avec Al Gore, ex-vice-président de Bill Clinton et militant de l'environnement de longue date, avait pourtant ouvert de nouveaux horizons qui se sont bien vite refermés avec la nomination hier, mercredi, 7 décembre, de Scott Pruitt. Donc Scott Pruitt a en effet été l'un des principaux leaders de la bataille juridique menée ces dernières années par les républicains dans le but de stopper les réformes engagées par Barack Obama pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc à 48 ans, c'est un défenseur acharné des compagnies pétrolières contre toute régulation administrative de l'extraction énergétique. Cette décision demeure cependant une demi-surprise puisqu'en fait Donald Trump n'est jamais revenu sur l'engagement pris pendant sa campagne électorale d'annuler l'accord de Paris sur le climat, signé pourtant par les États-Unis dans le cadre de la COP21. Néanmoins, la nomination de Scott Pruitt n'est pas de bon augure pour l'engagement écologiste des États-Unis et confirme les craintes des partisans d'une réglementation mondiale du réchauffement climatique.
Et sinon en France, Maëlys ?
Alors retour en France, Mathias, maintenant dans une deuxième partie du journal et notamment dans le domaine de la santé. Donc les sénateurs ont adopté hier soir la proposition de loi socialiste visant à pénaliser les sites anti-IVG pour désinformation et ce malgré une très franche opposition de droite qui y voit une limitation inacceptable de la liberté d'expression. Néanmoins, le texte a été examiné et modifié par les sénateurs en procédure accélérée dans la perspective d'un vote définitif du Parlement d'ici fin février et devra repartir à l'Assemblée. Cette mesure devrait entrer dans le cadre d'un élargissement légal du délit d'entrave à l'IVG, une loi créée en 1993 qui sanctionne le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une IVG en perturbant l'accès aux établissements ou en exerçant des menaces sur le personnel ou les femmes concernées. Donc la peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende à la clé. Donc la proposition de loi des députés vise à ajouter que l'entrave peut se faire par, je cite, « tout moyen, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne des allégations, indications de nature à induire intentionnellement une erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une IVG ». Donc la bataille n'est cependant pas encore gagnée et on a épisode à suivre donc avec le prochain retour du texte à l'Assemblée.
Course à la présidentielle maintenant. Un petit point sur la primaire de gauche ?
Donc politique maintenant, Mathias, à gauche toute, maintenant que la droite a terminé sa primaire, on se bouscule au portillon à gauche où les candidats à l'investiture se multiplient, malgré le retrait de Hollande mercredi dernier. Donc après Valls lundi dernier qui se lançait dans la course, ce serait au tour de Vincent Peillon de rentrer en lice, selon les proches de l'ancien ministre de l'Éducation qui se sont confiés au Point et au Canard enchaîné. Donc une candidature qui crée autant de surprises que de remous, Peillon étant un soutien d'Hollande de longue date, une telle candidature risquerait d'affaiblir le camp Valls, qui se pose en héritier de la ligne du gouvernement, en fait. Donc, d'après le Canard enchaîné, Peillon bénéficierait ainsi du soutien informel de Martine Aubry et de Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui ne se reconnaîtrait dans aucun candidat actuel. Donc, rappelons que 7 candidats sont actuellement déclarés, alors que les candidatures à la primaire de gauche se clôturent le 15 décembre prochain. Donc, on a Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann et Gérard Filoche à la gauche du PS, Pierre-Laure Outurou de Nouvelle Donne, Sidi Amada Amidou du PRG, Jean-Luc Benamias de l'Union des démocrates et les écologistes, et François de Rugy du Parti écologiste. La compétition est donc loin d'être terminée.
Oui, et ça doit être un peu le brouillard dans les programmes. Et en parlant de brouillard d'ailleurs.
Donc la France, dans un brouillard de particules fines actuellement. Donc la France connaît le pire pic de pollution hivernale depuis 10 ans, à la fois en termes de durée et d'intensité. Et ce sont les grandes villes qui sont principalement touchées. Donc la faute à des conditions anticycloniques installées sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Circulation alternée, en plus de transports en commun gratuit en Île-de-France et pour la première fois dans la région Rhône-Alpes. En effet, à Lyon et à Villeurbanne, les autorités s'attendent à dépasser le seuil critique de 80 microgrammes par mètre cube dans les prochains jours et le préfet de région Michel Delpuech a décidé pour la première fois d'appliquer la circulation alternée sur la capitale des Gaules. Donc la mesure entre en action demain vendredi 9 décembre et ne va pas s'en faire grincer des dents. D'une part, à Lyon, les transports en commun régis par la TCL, transports en commun lyonnais, sont affectés depuis plus de 10 jours par une grève et un bras de fer social qui touche essentiellement le réseau aux heures de pointe. Et d'autre part, et surtout, la ville s'apprête à célébrer la fête des Lumières qui commence aujourd'hui et qui dure tout ce week-end. Événement qui attire habituellement plusieurs millions d'âmes et qui représente une manne habituellement de plusieurs, une manne économique essentielle pour la ville. Donc on comprend dans ce contexte que les discussions autour de la gratuité des transports en commun et le manque à gagner associé soient âpres. Le préfet Michel Delpuech s'y montrant favorable quand le président de la métropole de Lyon, Gérard Collomb, s'y oppose. Bref, profitez-en bien de la fête des Lumières ou partez à la campagne, cherchez l'air pur. En vous souhaitant une bonne après-midi sur Transistor et rendez-vous dans une heure pour le Flash Info.
Merci beaucoup Maëlys pour toutes ces informations. Après les faits, l'humeur, il est maintenant temps de prendre un café avec nos 4 éditorialistes.
Alors, avant les au revoir, on a juste le temps de prendre un café et l'addition.
Et nous commençons tout d'abord avec l'édito international présenté par Clément. Bonjour Clément.
Bonjour Mathias.